Chapitre 6. Alors qu'elle approchait le chariot élévateur de la table en inox sur laquelle était posée la longue boîte en carton ciré, Nevea entendit la sonnette. Son père l'avait configurée de manière qu'elle retentisse à la fois à l'accueil, dans la réserve et dans la salle de crémation. Il avait fait de même avec les téléphones, du temps où ils utilisaient encore principalement la ligne fixe. Il disait souvent qu'un appel manqué était une occasion ratée de gagner de l'argent. Elle repensa amèrement à tous les spectacles et à toutes les compétitions d'athlétisme qu'il avait manquées, à l'époque où elle était encore au lycée. Ça, en revanche, ça n'avait jamais eu l'air de le déranger. Bien sûr, lorsque sa mère avait disparu, les spectacles, les compétitions d'athlétisme et les soirées dansantes organisées par l'école avaient été relégués du jour au lendemain dans le passé. Nevea avait été une enfant à qui on avait demandé de mettre son enfance entre parenthèses. Son père avait besoin d'aide à la boutique, comme il l'appelait. Et puisque Roman devait bientôt partir à la fac et que Dante était beaucoup trop bouleversé par ce qui s'était passé, c'était elle qui avait dû s'occuper des morts. Nevea songea qu'à ne jamais vouloir rater un appel, son père avait fini par rater sa vie. Ou du moins, qu'il l'avait laissé lui filer entre les doigts. Malheureusement, elle était en train de commettre la même erreur. Elle rejoignit l'accueil et ouvrit la lourde porte d'entrée. Roman se tenait sur le seuil, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon beige parfaitement repassé. « Je commençais à croire que tu m'avais fait faux bond ?» lâcha Nevea. « J'avais dit que je viendrais, non ?»«
On dit souvent des choses qu'on ne pense pas.
Tu devrais peut-être retirer ta chemise. On a quelques compotes dans la chambre froide. » Les compotes étaient le surnom que leur père donnait aux cadavres en état de décomposition avancée, et que les funérariums qui n'étaient pas équipés de fours crématoires leur livraient afin de pouvoir organiser une cérémonie de dispersion des cendres quelques jours plus tard. Car même si les thanatopracteurs étaient capables de prouesses, ce n'était pas pour autant des magiciens. Passé un certain stade, on ne pouvait plus envisager le moindre soin.
C'est à ce moment-là qu'on entre en jeu, disait souvent leur père, quand il n'y a plus d'autre choix que de tout brûler. Personne ne s'est jamais plaint de l'odeur des cendres, aimait-il ajouter en prenant des airs de philosophe de comptoir.
Nevea n'était pas d'accord. Combien d'hommes lui avaient juré pouvoir percevoir l'odeur de chair brûlée sur sa peau? Si la plupart du temps elle se rassurait en se disant que ces hommes s'imaginaient des choses après avoir appris où elle travaillait, elle avait par moments elle aussi l'impression de sentir cette odeur. Pourtant, elle prenait des douches, parfois plusieurs d'affilée. Et elle vidait des litres et des litres de shampoing aux arômes plus sucrés et écœurants les uns que les autres. Hélas, derrière le parfum de fraises, de vanille ou de fleurs d'oranger, il y avait toujours cette puanteur âcre de viande oubliée sur le barbecue.
« Je pensais enfiler une blouse, » dit Roman.
« Ça marche. Tu m'attends 2 minutes ? J'allais prendre une pause. »
« Je t'accompagne. »
Nevea referma la porte derrière eux et sortit de sa poche un paquet de Newport et un briquet orange. D'un geste naturel, elle alluma sa cigarette, tira une longue bouffée et recracha la fumée par le coin de la bouche.
« J'espérais un peu que tu viennes avec Dante, » dit-elle. « Les rares fois où tu es là, ça arrive qu'il se motive à faire semblant de travailler. »
Alors que la brise matinale gagnait en intensité, faisant volter la poussière et les détritus en provenance du terrain vague de l'autre côté de la route, Nevea s'adossa à un pilier, sous la petite marquise qui surplombait l'entrée du crématorium. La bâtisse consistait en un cube en briques à un étage, sans la moindre fenêtre. En plus de la porte qui menait à l'accueil, il y avait un rideau métallique sur la façade gauche, qui permettait d'accéder directement au garage et à la salle d'incinération, et 2 extracteurs qui occupaient toute la façade droite et par lesquels s'évacuaient les gaz des 2 énormes fours. Lorsque les détritus en suspension passèrent à proximité des extracteurs, ils furent projetés vers le ciel par le souffle des ventilateurs. Roman secoua la tête.
Quand je me suis réveillé, la maison était vide. Il était déjà parti.
Du Dante tout craché, soupira Nevea. La weed appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Ou peut-être la coke.
Je sais pas trop ce qu'il prend en ce moment.
« Tu n'es pas rentré, toi, hier soir ? »
demanda Roman.
Non.
Nevea n'avait visiblement aucune intention de s'éteindre. C'était son droit. Roman était son frère, pas son père.
À ton avis, il faut s'inquiéter pour Dante ?
Fit Roman.
Papa pense que oui.
L'an passé, il l'a envoyé en cure de désintox. Mais Dante y est à peine resté une semaine. Papa a beau menacer de lui couper les vivres, il l'a jamais fait. En même temps, c'est le petit dernier, pas vrai ? Le chouchou.
Nevea marqua une pause, avant de reprendre.
Au fond, il s'est jamais remis de la disparition de maman.
Mais bon, nous non plus, quelque part.
On s'en sort pas si mal que ça. Si tu savais ce que j'entends parfois avec mes clients.
Nevea tira une dernière bouffée sur sa cigarette, avant de l'écraser sous son talon.
T'en as beaucoup des clients dont la mère s'est volatilisée et qui vivent dans une ville où tous les habitants sont convaincus que c'est leur propre père qui l'a brûlé ?
Lâcha-t-elle, avant de rentrer dans la bâtisse. Roman observa la porte que Nevea avait laissée entrouverte. Un lourd battant couleur ardoise, avec au centre une grosse poignée en cuivre polie par les années.
« Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance », semblait-elle lui murmurer.
Roman considérait le crématorium comme une espèce d'enfer, rempli de peur et de fureur, et hanté par les milliers de fantômes dont les âmes avaient été dévorées par les flammes. Après avoir enfilé une blouse, il passa la majeure partie de la matinée avec sa sœur, à déplacer les cadavres de la chambre froide aux deux fours, puis à empaqueter les cendres dans des sacs en plastique qui étaient ensuite scellés avec une étiquette en métal et glissés dans des urnes en carton de la taille d'une Bible. Il lui fallut environ une heure pour retrouver ses marques. Plusieurs dizaines de saisons s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'il avait manipulé le chariot élévateur aux bras articulés, ou le broyeur qui permettait de réduire en une poudre granuleuse les résidus grisâtres récupérés dans le cendrier du four après l'incinération. La peau, la chair et le sang étaient entièrement brûlés, mais il restait des morceaux d'os et de minéraux. En 2 heures, un homme adulte de corpulence moyenne devenait un tas de cendres d'environ 3,5 kilos. Roman heurta plusieurs fois le mur en déplaçant le chariot, et il faillit faire tomber un sac qu'il venait de sortir du broyeur. Mais la mémoire musculaire finit par reprendre le dessus. Il avait passé trop de samedis et de dimanches dans cette citadelle de la mort pour en oublier les rituels. Il n'arrêtait pas de penser à Dante. Il savait que son frère aimait faire la fête et qu'il lui arrivait de terminer dans des états pas possibles. Mais à la lumière de la conversation qu'ils avaient eue la veille, il commençait à soupçonner que la consommation de drogue de Dante était passé du simple usage récréatif à quelque chose de beaucoup plus préoccupant. D'ailleurs, il était convaincu que Getty et Cassidy n'avaient pas fini seuls l'énorme quantité d'héroïne qu'ils s'étaient procurée. Bref, Dante sombrait peu à peu, pendant que Nevea faisait de son mieux pour maintenir tout le monde à flot. Roman éprouvait d'autant plus d'empathie pour sa sœur qu'il se sentait coupable d'être parti. Et si la façon dont Nevea parlait de Dante n'était pas sans rappeler celle du frère aîné évoquant le fils prodigue, ça se comprenait.
C'était le dernier de la journée,
annonça Nevea en verrouillant la porte sur un cadavre. Quand on aura récupéré les cendres, il faudra laisser les fours refroidir avant de pouvoir les nettoyer. Sa blouse, comme celle de Roman, était maculée de transpiration. Ils avaient ouvert en grand le rideau métallique pour faire entrer l'air frais de l'extérieur. Les deux énormes ventilateurs d'1,50 m de diamètre tournaient à plein régime, mais la température frôlait malgré tout les 40 degrés.
« T'as qu'à rentrer, » proposa Roman. « Je fermerai. »
« Tu te sens merdeux parce que tu te rends compte que je dois faire ça tous les jours depuis des années avec papa, c'est ça ?»
lui lança sa sœur, un sourire narquois aux lèvres.
« Peut-être. » « Ou peut-être que je vois juste que t'as besoin de souffler, »
mentit Roman.
« Bon, t'oublieras pas de fermer les valves de gaz et de laisser tourner l'extracteur, hein ?»«
Je sais ce qu'il y a à faire, t'inquiète pas. »
« Papa et sa peur des incendies. Il dit toujours qu'il veut pas que les flammes se retournent contre lui. »
Ils se tenaient côte à côte sous la marquise, Roman consultant son portable pendant que Nevea fumait une cigarette. Il avait demandé à Dante de fixer le rendez-vous avec les Black Baron Boys autour de 21h au crématorium. D'après Roman, c'était l'endroit idéal. Un lieu qui n'attirait pas l'attention, à l'abri des regards. Sous réserve que les BBB ne débarquent pas dans un cortège de Cadillac rutilante équipé de jantes chromées de 24 pouces, bien sûr. Auquel cas, même les empotés du poste de police de Jefferson Run flaireraient le mauvais coup.
« Est-ce qu'il t'arrive de te demander où elle est ?»
le questionna soudain Nevea. « Plus maintenant. » Roman rempocha son téléphone. Le soleil s'était couché et les premières étoiles s'allumaient une à une dans le ciel.
« Avant, j'y pensais tout le temps, » reprit Nevea. Essayer de découvrir ce qui lui était arrivé. C'était une véritable obsession. Par exemple, j'ai jamais compris que sa voiture ait été retrouvée du côté de la voie ferrée. Qu'est-ce que maman serait allée faire là-bas ?
Voir son amant ? Suggéra Roman d'un ton plus sec qu'il n'aurait voulu.
J'ai longtemps cru qu'Oscar était responsable de la disparition de maman. Mais maintenant, je sais plus. Un jour, j'ai posé la question à papa. À ce moment-là, les rumeurs avaient déjà commencé à circuler et papa avait licencié Oscar. Il m'a répondu qu'il refusait d'y penser et que ça ne servait à rien de parler de tout ça. Oscar est mort il y a quelques années et quand Chester Harmon du funérarium Jackson Brothers a apporté son corps au crématorium, papa n'a même pas daigné le regarder. J'ai dû m'occuper de l'incinération toute seule.
En même temps, t'imagines comme ça a dû être dur pour papa ? Tout le monde était au courant. Pendant des années, le fait que maman l'avait trompé est resté le sujet de conversation principale au lycée. Roman avait la mâchoire tellement contractée qu'il avait l'impression d'être un automate mal graissé.
C'était pas une raison pour la tuer,
lâcha Nevea.
Hein ? De qui tu parles ?
À ton avis ? Roman se dégagea du mur auquel il était adossé.
« Je veux pas croire que tu parles de papa. »
Nevea cligna plusieurs fois des yeux.
« Je l'avais encore jamais formulé à haute voix, » avoua-t-elle. « Il a fallu que j'attende qu'il soit cloué dans un lit d'hôpital pour oser le faire. » « Tu sais, quand maman a disparu et que la police est venue nous interroger, je me suis dit que papa agissait bizarrement parce qu'il avait peur. Peur que maman ne revienne jamais. Mais maintenant, je comprends que c'est des flics qui l'avaient peur. » Parce qu'il risquait de découvrir ce qu'il avait fait.
Tu penses pas ce que tu dis. Tu penses pas sérieusement qu'il l'a tué.
Je m'occupe de la comptabilité depuis que j'ai 19 ans. Le nom de maman est encore sur tous les comptes. Toutes ces années et pas un retrait. Pas un coup de téléphone. Pas un cadeau d'anniversaire. Pas une carte de vœux. Pas de demande de divorce. Pas d'invitation à rencontrer son nouveau compagnon. Rien.
Ça veut pas dire qu'il l'a tué. Jamais il s'en serait pris à la mère de ses enfants. Cette entreprise, ils l'ont construite ensemble, avec l'argent qu'ils avaient économisé. Maman en bossant à l'hôpital, papa en jonglant entre son boulot au funérarium Jackson Brothers et ses heures supplémentaires au Trouts. Tu te rappelles pas ? Ils ont sué sang et eau pour y arriver. Ensemble. Je me souviens quand papa est revenu de la banque après avoir obtenu le prêt. Il nous a tous entassés dans la vieille Chevrolet Suburban et il nous a emmenés au Old Country Buffet. Maman a dit que c'était le restaurant le plus chic de Jefferson Run et papa lui a répondu qu'un jour, il l'emmènerait dîner dans un vrai restaurant gastronomique à Richmond. Mais qu'en attendant, il fallait se contenter de ça.
La voix de Roman s'était brisée. Nevea tira sur sa cigarette et souffla la fumée par les narines à la manière d'un dragon.
Elle regardait l'obscurité, les étoiles qui continuaient à s'allumer dans le ciel, le croissant de lune argenté qui était apparu derrière les nuages.
Maman trompait papa avec l'homme qui les aidait à faire tourner leur entreprise. La mère de ses enfants avec l'homme qu'il considérait comme un frère. Notre père possède un crématorium. Il a cravaché dur pour réussir et il vient de passer tout un été à entendre que sa femme se taperait leur employé. Et un beau jour, sa femme se volatilise. Quelle conclusion tu veux que je tire ? Tous les arguments que tu m'as donnés confirment mes suspicions. Plus on aime quelqu'un, plus on est susceptible d'avoir le cœur brisé, et plus il y a de risques que cet amour se transforme en haine.
évidemment que je pense qu'il l'a tué. La vraie question, c'est comment ça se fait que toi, tu n'y crois pas.
Elle tira une dernière bouffée sur sa cigarette, et Roman vit l'extrémité rougeoyer dans la nuit.
« Parce que je connais papa », asséna-t-il.
« Bon, je rentre à la maison. N'oublie pas de fermer les valves »,
dit Nevea, et elle s'éloigna vers son pick-up. Alors qu'elle s'installait au volant, son portable vibra. Un texto. « Je suis encore dispo ce soir ». D'une main, elle tapa sa réponse, tout en se rallumant une cigarette de sa main libre.
« Pas ce soir, Chauncey. J'ai des histoires de famille à gérer. »
Elle appuya sur « Envoyer » et démarra. Arrivée au bout d'Industrial Way, elle prit à droite en direction du centre-ville. Elle avait besoin d'un verre, de 10 verres, pour laver sa langue de ce qu'elle venait de dire. Pas parce qu'elle pensait qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait peur d'avoir raison. Roman gravit l'escalier qui menait à la partie privative et sauta sous la douche. Il mit l'eau aussi chaud qu'il pouvait le supporter, afin de récurer les résidus des corps qu'ils avaient incinérés et des vies qu'ils avaient réduites en poussière. Un jour, avant la disparition de sa mère, il avait demandé à son père pourquoi il avait choisi d'ouvrir un crématorium plutôt qu'un magasin de pompes funèbres. Un conseiller funéraire, c'est à la fois un psy, un juriste et un agent d'assurance, lui avait répondu son père. Parfois, on lui confie même la casquette de détective. Franchement, ça représente beaucoup de boulot pour très peu d'avantages. Nous, on laisse le feu faire tout le travail. Pas besoin d'habiller les corps ni de les maquiller. Et personne ne vient se plaindre que le cadavre de leur proche n'est pas assez ressemblant. Ici, pas de questions, pas de reproches. On brûle. Le feu détruit tout. Roman avait souvent repensé à cette philosophie professionnelle à laquelle adhérait son père. Enfant, il ne connaissait pas le terme nihilisme, mais au fil des années, il avait compris que c'était la meilleure manière de décrire la façon dont son père voyait le monde. Le feu détruit tout. Et de fait, le feu avait détruit le mariage de Keith Carruthers, ses amitiés, ses relations avec ses enfants. Voilà un homme qui avait tout sacrifié sur le bûcher de ses ambitions. Pourtant, Roman aimait son père, et il l'aimait pour ses sacrifices. Il l'aimait pour sa force de caractère, car il lui devait tout. Les flammes avaient payé ses études à l'université de Géorgie. Le feu lui avait offert la vie confortable qu'il menait à Atlanta. Bref, si Roman avait pu devenir l'homme qu'il était, c'était surtout grâce à son père. Moins à sa mère, qui lui manquait pourtant terriblement et dont il rêvait presque toutes les nuits. La sonnette résonna dans le bâtiment. Roman sortit de la douche, sauta dans son pantalon, enfila sa chemise et passa sa Rolex à son poignet. Toutes ses chemises étaient faites sur mesure, avec la manche gauche légèrement plus courte que la droite, afin de pouvoir exhiber cette magnifique montre à 12 000 $ qu'il avait achetée d'occasion à un joaillier qui travaillait avec certains de ses clients. Roman aimait les belles choses. Il aimait porter les vêtements les plus élégants, conduire les voitures les plus extravagantes, dîner dans les restaurants les plus exclusifs. Mais il avait conservé une certaine frugalité, héritée de la philosophie de son père. Le feu détruit tout. Les voitures perdaient une bonne partie de leur valeur dès l'instant où elles quittaient la concession. La cotation d'un bijou dépendait uniquement de ce que voulait bien en proposer le marché. Il n'y avait qu'à regarder les émissions de vente aux enchères pour le comprendre. Même les chemises sur mesure finissaient par s'user et par se déchirer. L'existence était une grande mascarade, une pièce de théâtre. Et les choses matérielles faisaient partie du costume. Roman aimait se déguiser, mais il préférait largement avoir une somme à 9 chiffres sur un compte offshore. Il s'essuya le visage. Vit dans le miroir un homme qui pesait plus $1 million, même si pour l'heure il n'en valait guère plus de 30 000. La majeure partie de son patrimoine dormait sur des comptes auxquels il n'avait pas accès. Il avait mis en place un système de maturation financière complexe, qui requérait à la fois beaucoup de patience et d'organisation. Ce système, il ne le proposait pas à ses clients, qui pour la plupart désiraient un retour sur investissement immédiat. Leur argent, il le plaçait dans des actions à fort rendement, dans des fonds spéculatifs, dans les métaux précieux, dans la technologie, dans l'immobilier,
Bref, autant de secteurs où il était possible de récupérer ses billes en un claquement de doigts. Par exemple, lorsqu'on avait une caution à payer à la suite d'une infraction qui avait fait le buzz, ou un pot de vin à verser pour étouffer une affaire gênante. Les clients de Roman étaient principalement des célébrités éphémères, ou des fils et des filles d'eux, qui rêvaient de prendre leur retraite sur une île paradisiaque, et encore quand ils avaient la présence d'esprit de penser à leur retraite. Roman, lui, voulait une île pour lui tout seul. Le temps que Roman atteigne le bas de l'escalier, la personne devant la porte avait abandonné la sonnette pour marteler le bâton avec son poing. Le bruit sourd faisait trembler la bâtisse silencieuse. Roman approcha l'œil du Judas. Sur le seuil, un livreur vêtu de l'uniforme marron du PS. Roman ouvrit. « J'ai un colis pour Carruthers Cremation Services », annonça le livreur. Il tendit à Roman une boîte rectangulaire de la taille d'une grosse Bible, comme celle qui trônait sur le pupitre de l'église baptiste de Taylorville, que leur famille fréquentait avant de déménager dans la maison que leur père avait fait construire à Jefferson Run. « Signez ici », indiqua l'homme, et il présenta un stylet et une tablette à Roman. Celui-ci s'exécuta. « Bonne soirée », dit l'homme en tournant les talons. « Espérons », marmonna Roman. Il posa le colis sur le bureau de la salle de crémation et remonta à l'étage pour attendre Dante. Une heure plus tard, il entendit la Challenger pénétrer sur le parking et descendit ouvrir la porte. Lorsque Dante se glissa à l'intérieur, Roman remarqua que, contrairement à la veille, son frère avait le regard vif. Dante entra dans la salle d'attente et s'assit sur une chaise en bois, à côté de la porte qui menait au bureau. « Je suis allé voir Getty », annonça-t-il. « Je lui ai parlé de ce que tu m'as dit. » « Et donc ?» Dante se passa une main dans les cheveux. « Et donc t'avais raison. Il était là, c'est ton problème, mec, c'est à toi qu'ils ont confié la cam. Cet enfoiré m'a sorti ça en me regardant droit dans les yeux. Bon, on pourra s'en servir quand on parlera aux Black Baron Boys. S'en servir comment? Qu'est-ce que je vais faire, Rome? Ils vont me buter. »
T'aurais dû y penser avant de jouer les dealers, songea Roman. Ils ne vont pas te buter, dit-il, pour la simple et bonne raison qu'ils veulent leur argent. Alors ce qu'on va faire, c'est leur proposer un deal qui leur permettra de récupérer leur mise de départ, ainsi que quelques intérêts supplémentaires.
T'as toujours pas compris, Rome? Ces mecs sont des monstres.
Roman croisa les bras. Non, Dante. Ces mecs sont des gangsters. Et un gangster, c'est rien de plus qu'un PDG de la rue. Des PDG et des dealers, j'en ai rencontré pas mal dans ma vie. Je parle leur langage. Je t'assure que je vais trouver une solution.
Je vais te raconter un truc sur eux, dit Dante, après s'être passé la langue sur la lèvre. Tu te souviens d'Eva Willis, qui faisait de l'athlétisme? Eh ben, sa sœur, c'est la mère de Torrent et Tranquil Gilchrist. Torrent doit son surnom au fait qu'il a coulé toute la concurrence à Jefferson Run. Quant à Tranquil, disons que c'est du second degré, parce qu'il n'y a pas plus taré que lui. En plus, il a un visage indéchiffrable. On ne sait jamais s'il est furieux, s'il est triste ou s'il est fou de joie. Il y a quelques années, un certain Quaran a essayé de s'implanter à Jefferson Run. Il avait des liens avec les Crips, les Bloods ou je sais plus quelle gang. Il a débarqué ici sans connaître les règles et il s'est mis à braquer les points de deal de Torrent et Tranquil. Mais aussi leur lavage auto et leur magasin de cigarettes électroniques. Un soir, il est allé au Trout. Il s'est approché de Torrent, qui était en train de manger des tripes à sa table, et, sans faire exprès, il a poussé son assiette par terre.
Dante s'interrompit quelques secondes avant de reprendre le fil de son histoire.
Une semaine après, un livreur sonne à la porte de la nana de Quaran avec un sac repas. Plus tard, elle a raconté lui avoir dit qu'il avait dû se tromper d'adresse parce qu'elle avait rien commandé. Mais il a insisté. Alors, elle a fini par accepter la bouffe, surtout que c'était gratuit. En plus, ça sentait super bon. Il n'y avait que des spécialités du Sud. Du pain de maïs, du gratin de macaroni, une poêlée de fan de navet, une grosse bouteille de thé glacé maison et des tripes. Elle enfile aux gosses, elle en mange. Elle verse de la sauce pimentée sur les tripes et elle te dévore ça comme une morfale.
Mais au fond de l'assiette, elle découvre que quelqu'un a collé une page d'un bouquin. Du Coran, précisément. Torrent et Tranquille ont fait bouffer les intestins de Quaran à la mère de ses gosses. Tout ça pour dire, je sais pas ce que tu comptes raconter à ces deux tarés, mais réfléchis bien avant de parler.
Dante, tu te doutes bien que c'est une légende urbaine qu'ils ont probablement dû lancer eux-mêmes pour asseoir leur réputation.
C'est du vent,
ajouta Roman, avec un geste de dédain. Rassure-toi, ils vont pas te découper en morceaux. Tout ce qu'on a à faire, c'est négocier un accord où les deux parties rentrent à la maison en ayant l'impression d'avoir gagné.
Sauf que c'est pas le genre de gars à avoir envie de partager la victoire, Rome.
Roman s'apprêtait à reprendre la parole quand le rugissement d'une double ligne d'échappement résonna dans la nuit. Les deux frères se tournèrent vers l'arrière de la bâtisse, dont semblait provenir le bruit. Du menton, Roman désigna la porte estampillée privée au fond de la salle d'attente. Dante passa devant. Ils traversèrent les bureaux et entrèrent dans la salle d'incinération. Là, Dante s'avança vers le rideau métallique et jeta un œil par une des quatre fenêtres qui le perçaient sur toute sa largeur.
« C'est eux !» annonça-t-il, le souffle court.
Roman s'approcha de lui et lui posa une main sur la nuque.
« Ça va aller !»
tenta-t-il de le rassurer.
« Tu fais les présentations, tu leur expliques qui je suis, et pour le reste, tu me laisses gérer. D'accord ?»
Dante acquiesça. Roman serra les poings et contracta les orteils dans ses chaussures. Il voulait dégager l'aura d'assurance et de sang-froid qui l'entourait habituellement lorsqu'il pénétrait dans une salle de conférence. Il avait promis à Dante qu'il pourrait trouver un terrain d'entente avec ces types, et il était certain d'y parvenir. Mais à présent que le moment était arrivé, il fallait composer avec le stress qui menaçait de prendre le contrôle de son corps. Son cerveau reptilien lui intimait de tout brûler et de fuir sans demander son reste. Mais il ne pouvait pas abandonner Dante. Pas après la dernière fois.
Ouvre, ordonna Roman.
Dante appuya sur le bouton rouge qui commandait le rideau métallique et s'écarta. Roman vit alors deux voitures garées sur le petit parking. Une vieille Pontiac Bonneville, dotée d'énormes jantes 24 pouces, dont la peinture vert dollar scintillait à la lueur des lampadaires, et une BMW noire plutôt discrète. Trois types descendirent de la Bonneville. La poitrine de Roman se serra. Ils étaient costauds, vêtus de jeans larges et de t-shirts blancs assez amples. L'un d'eux arborait un durag et une chaîne noire au bout de laquelle pendait un crâne coiffé d'un haut de forme. Le même crâne apparaissait sous diverses déclinaisons sur les nombreux tatouages qui leur couvraient tous les bras. Deux hommes descendirent de la BMW avec la grâce puissante d'athlètes professionnels. Leur morphologie longiligne rappelait celle de basketteurs. Le conducteur était le plus petit des deux. Il avait des tresses qui lui tombaient dans le dos et, dans le cou, le fameux crâne à chapeau imprimé sur la peau. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées, laissant apparaître deux avant-bras musclés ornés eux aussi de tatouages. Il portait un jean slim noir et une paire de Jordan vintage rouge et blanc. L'homme qui sortit côté passager était plus grand. Mais Roman vit tout de suite la ressemblance avec le conducteur. Leur visage affichait le même air renfrogné, un rictus qui faisait penser à un masque métallique qui se serait très légèrement déformé à force d'être chauffé avant de se figer en une grimace éternelle en refroidissant. Sauf que ces deux hommes ne devaient pas être du genre à laisser redescendre la température. D'ailleurs, malgré la distance qui les séparait, Roman pouvait sentir la chaleur de la rage qui les irradiait. Le passager avait une coupe afro, avec une partition bien nette, qui formait une ligne horizontale sur le côté gauche de sa tête. Il portait une chemise blanche et un pantalon noir, que complétait une longue veste noire. Lui aussi affichait le crâne coiffé d'un haut de forme sur la peau. Mais le dessin était plus petit, plus subtil, et se limitait au dos de sa main gauche. Torrent et Tranquille. Les frères Gilchrist. La veille, la lumière tamisée du club conférait à leurs traits quelque chose de presque enfantin. Mais sous la lueur crue des lampadaires, les chemins sombres qu'ils avaient empruntés et les horreurs qu'ils avaient commises semblaient gravés sur leurs visages. Dans le club, Roman les avait pris pour des frimeurs, sans envergure. Là, ils ressemblaient à des tueurs implacables. Roman déglutit.
Rome ?
Je te présente Torrent et Tranquil, dit Dante. Et là, tu as D-Train, Splody et Yellow Boy.
Pas mal ta chaîne, commenta Roman en s'adressant à celui qui portait le durag.
Ouais, merci, répliqua l'autre. Je viens de l'acheter. Si tu te demandes pourquoi on m'appelle Yellow Boy, c'est parce que j'ai eu la jaunisse, gamin. En même temps, t'as vu ma gueule, tu te doutes bien que c'est pas à cause de ma couleur de peau.
Et il partit d'un grand éclat de rire, que Torrent interrompit d'un regard, comme s'il l'avait tranché avec un katana. La première chose que Roman avait apprise en école de commerce était que dans une réunion professionnelle, le plus important n'était pas tant d'ouvrir le dialogue que de savoir déterminer rapidement qui se trouvait où dans la chaîne alimentaire. Et si Yellow Boy s'était senti obligé d'expliquer la signification de son surnom, c'est qu'il était tout en bas.
« Entrez donc !» dit Roman.
Encore une tactique. En se substituant à Dante pour lancer l'invitation, il faisait comprendre aux nouveaux arrivants qu'il était aux commandes. Tous traversèrent la salle d'incinération pour se rendre dans les bureaux.
« Fouille-les !» ordonna Torrent.
Yellow Boy s'avança et, sans demander la permission, passa les mains sur le ventre et le torse de Roman, puis le long de ses jambes et autour de sa taille. Il répéta l'opération avec Dante. Torrent, lui, fixait Roman du regard en caressant son bouc impeccable. Au bout de quelques secondes, il enfouit les mains dans la poche de sa veste.
« D'après ton frère, t'as quelque chose à nous dire ? »
fit-il d'une voix grave et calme. Roman remarqua que les trois autres membres de leur petit groupe s'étaient écartés pour former un demi-cercle autour de lui. Il prit une grande inspiration avant de se lancer.
Mon frère et son copain Getty ont obtenu que vous leur fournissiez une énorme quantité d'héroïne et d'extasy, d'une valeur de 300 000 $ pour être exact. Le dit Getty a raconté à mon frère qu'il s'était fait voler pour 50 000 $ d'extasy dans une sombre histoire qui ne tient pas debout une seule seconde. Loin de moi l'idée de vous expliquer comment gérer vos affaires, mais à votre place, je m'occuperai de ce problème directement avec ce monsieur Getty. Restent nos 250 000 $ d'héroïne. Mon frère a commis deux grosses erreurs. Il a cru qu'il pouvait devenir dealer, et il a cru que ce serait une bonne idée de s'associer à Getty. Maintenant, si...
J'ai pas besoin d'un résumé de ses bavures, répliqua Torrent, en plantant ses yeux dans ceux de Roman, tel un faucon observant un lapin. Ce que j'attends de toi, c'est que tu m'expliques comment tu vas nous rembourser.
Roman essaya de soutenir le regard de Torrent, mais le vide terrifiant qu'il vit dans les pupilles du gangster le poussa à baisser la tête.
Très bien. Dans le paquet posé sur le bureau juste là, il y a 200 000 $. De quoi éponger une partie de la dette de mon frère. Les 50 000 qui manquent pour solder votre contentieux, je m'engage à vous les fournir d'ici la fin du mois. En attendant, si vous voulez que je vous aide à placer cet argent dans des investissements, disons, moins risqués, je serai ravi de vous offrir mes services. C'est mon boulot de faire des petits à l'argent de mes clients, et j'excelle dans mon métier.
Roman sentit que son cœur frémissait comme les ailes d'un colibri. Il n'était pas en mesure de rembourser immédiatement l'intégralité de la dette de Dante, et il espérait que sa dernière proposition suffirait à faire avaler la pilule à ces gangsters impitoyables. La veille, à 2 h du matin, il avait appelé Khalil pour lui demander de récupérer tout le liquide qu'il gardait dans le coffre-fort de son appartement, puis de prendre la route jusqu'en Caroline du Sud, afin de le déposer chez UPS. Il lui avait fourni l'adresse du crématorium en croisant les doigts pour que le colis n'arrive qu'après le départ de Nevea. Sur ce point, il avait eu de la chance. Il avait passé la journée à attendre une notification qui n'était jamais venue, jusqu'à ce que le livreur sonne directement à la porte. Torrent leva la main. Roman se tut. Derrière lui, les fours émettaient de légers cliquetis en refroidissant. Dante se mordillait la lèvre.
« Tu crois que je sais pas quoi faire de mon pognon ?» demanda Torrent.
Les acolytes du gangster se redressèrent, ainsi que Tranquil, qui se tenait jusque-là adossé au chariot élévateur. Un changement infime dans l'atmosphère, mais Roman l'avait perçu. Il s'efforça de continuer à regarder Torrent, tout en choisissant bien ses mots.
« Ce n'est pas ce que je sous-entendais, » répondit-il. « Je ne voulais pas vous insulter. »
« Tu parles beaucoup. » le coupa Torrent.
Mais j'attends toujours que tu me dises quand ton frère me remboursera l'argent qu'il me doit.
Comme je l'expliquais, il y a 200 000 $ dans ce paquet. Si ça ne suffit pas, je vous ai proposé mes services. C'est tout ce que j'ai dit. »
Roman avait parlé d'une voix lente et calme. Il avait l'impression de se tenir en équilibre sur la lame d'un couteau assez tranchant pour le couper en deux.
« J'ai parfaitement compris, » reprit Torrent. « Tu veux que j'attende quoi ? 3 mois ? Et pendant ce temps-là, tu joues au bonto avec mon pognon, et ton frangin continue à claquer le fric qu'il me doit dans des bars ? Comme s'il me devait pas plusieurs centaines de milliers de dollars ?»
Torrent s'avança vers Roman et s'arrêta à 30 centimètres de lui.
« J'ai parlé de la fin du mois, » murmura Roman.
Le gangster se pencha vers lui.
« Quand ton frère et son pote sont venus me trouver, ils m'ont baratiné. Ils m'ont assuré qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était faux. Ils m'ont assuré qu'ils savaient couper la drogue. C'était faux. Mais surtout, ils m'ont juré qu'ils allaient multiplier leur investissement par 2 tout en me remboursant la somme initiale plus les intérêts. Aujourd'hui, ils me doivent 420 000 $.
« Attends, ça fait des intérêts à 40% !» protesta Roman. Mais Torrent posa un index sur ses lèvres pour lui intimer de se taire.
« Je leur ai fait une proposition qu'ils ont acceptée. Ils ont promis de me rembourser. J'attends toujours. Pire, ils continuent de se balader dans Jefferson Run comme si de rien n'était. Comme si personne avait crevé les pneus de vos camionnettes. Comme si votre père s'était pas fait tamponner par un train. » Alors qu'est-ce qui me dit que ta parole vaut plus que celle de ton frère ? Tu me prends pour un con, c'est ça ?
Roman avait l'impression d'avoir du sable dans la gorge.
« Je t'ai posé une question, » insista Torrent, en faisant claquer ses doigts à quelques centimètres du visage de son interlocuteur.
« Non, je te prends pas pour un con. Je voulais juste... »«
Bien sûr que si. » T'as cru que j'étais un Nino Brown en carton qui cache son pognon sous son matelas en attendant que les flics viennent fracasser sa porte.
Je t'assure que non. Tu peux vérifier qui je suis. Je sais de quoi je parle. J'essayais simplement de t'expliquer que le domaine de la finance, beaucoup de gens ont du mal à... Roman n'arrivait plus à trouver ses mots. La faute à son cœur qui tambourinait dans sa poitrine.
Voilà comment je vois les choses, déclara Torrent. On va prendre les 200 000. D'ici la semaine prochaine, tu vas nous dégoter les 50 000 qui manquent. Et après, tu continueras à passer à la caisse tous les mois, jusqu'à ce que j'estime que ton frère et toi avez remboursé le prix de ma patience. Ça, c'est la taxe pour s'être foutu ouvertement de ma gueule.
Écoute, je peux pas te payer 50 000 $ par mois ad vitam aeternam. Par contre, je peux te régler ce que te doit mon frère. Ça, je te le garantis. Ces 200 000 $ sont une preuve de ma bonne foi. Ensuite, 220 000 $ à raison de 50 000 par mois, ça représente 4 mois, en gros. 420 000, c'est ce qui te doit. Et c'est ce qu'on te paiera. Après le désert dans sa gorge, Roman avait désormais le sentiment que quelqu'un avait ouvert le robinet à salive dans sa bouche. Le haut-le-cœur menaçait, mais ce n'était pas le moment de flancher. Il devait poser clairement ses limites, expliquer ce qui était faisable et ce qui ne l'était pas. Ces types avaient beau ressembler à deux banals caïds, Roman devinait qu'ils étaient loin d'être naïfs.
« Tranquille, » dit Torrent.
L'intéressé s'approcha d'un pas lent et arrêta son regard sur Roman. Ses yeux, d'un brun boueux, paraissaient noirs sous le plafonnier à la lueur jaunâtre.
« Écoutez, » fit Roman, « je sais pas pourquoi cette conversation a dérapé, mais... »
Le coup fut fulgurant. De l'extérieur, cela avait dû ressembler à un cobra mordant sa proie dans un documentaire animalier. Un mouvement trop rapide pour être perçu par l'œil humain, mais un résultat bien visible. Et comme le pauvre rongeur terrassé par le serpent, Roman se retrouva au sol, se tordant de douleur. Tranquille le saisit par les cheveux et lui enfonça dans la bouche le canon du pistolet dont il venait de se servir pour lui asséner un coup de crosse. Roman sentit un goût d'huile pour arme sur sa langue, tandis que ses dents heurtaient le viseur en fer situé à l'extrémité du canon. Il entendit Dante crier, sans voir ce qui arrivait à son frère. Son champ de vision se limitait au visage patibulaire de Tranquille et Torrent, éclairé par le plafonnier.
« Je déteste les petits malins dans ton genre qui veulent me donner des leçons comme si j'étais encore à l'école primaire, » dit Torrent,
d'un ton toujours aussi calme, avant de se tourner vers son frère.
« Redresse-le. »
Tranquil tira Roman par les cheveux et le força à se mettre à genoux. « Tu débarques avec tes grands sourires, ta chemise sur mesure, ta montre de luxe et tes belles godasses de blanc, et tu m'expliques que tu vas me payer. » poursuivit Torrent. C'est pas comme ça que ça se passe à Jefferson Run. Les larmes montèrent aux yeux de Roman. Le goût métallique dans sa bouche lui donnait la nausée. Du sang ruisselait de sa tempe meurtrie et lui dégoulinait sur le visage. Dans son dos, Torrent fit un mouvement.
Je vais te montrer, moi, comment ça se passe.
Roman aurait voulu parler, plaider, faire ce qu'il savait faire de mieux, mais le canon lui obstruait la bouche. C'est alors qu'il reçut un second coup, cette fois au-dessus du crâne. Un bourdonnement dans ses oreilles, tandis que ses incisives se brisaient sur le canon du pistolet. L'espace d'un instant, la douleur fut si intense que son cerveau décida qu'elle n'existait pas, et la remplaça par une sensation de froid, comme s'il avait croqué un glaçon. Hélas, ce répit ne dura qu'une fraction de seconde. Puis il eut l'impression de s'être jeté la tête la première contre un lampadaire, d'avoir mis les doigts dans une prise de courant, d'avoir reçu un crochet du gauche de Mike Tyson. Tout cela à la fois. À l'instant où Tranquil lui retira le pistolet de la bouche, Roman bascula en avant et s'écroula par terre. Sa langue, désormais libre de ses mouvements, chercha d'instinct les incisives supérieures, mais ce qu'elle découvrit à la place horrifia Roman. Sa gencive était hérissée d'éclats branlants et pointus. Il roula sur le côté, et les lèvres entr'ouvertes, il laissa le sang s'écouler sur son menton. Lorsque quelque chose de dur et tranchant s'insinua dans sa gorge, il fut pris d'un haut-le-cœur et cracha. Il aperçut alors de petits fragments blanchâtres au milieu de la flaque rouge qui s'était formée sur le sol en béton, et il comprit qu'il s'agissait des vestiges de ses dents. Torrent contourna son corps recroquevillé et s'accroupit en face de lui. Roman essaya de se concentrer, ce qui n'était pas chose facile avec cette douleur dans la bouche qui lui donnait le sentiment d'avoir léché un câble à haute tension. Il ne s'était jamais senti aussi proche de la mort. 48 heures plus tôt, il était allongé dans son lit à côté d'un top modèle dont le fait de gloire avait été de tortiller son cul dans un clip de Usher. Et voilà qu'il se retrouvait gisant sur le sol d'une bâtisse pour laquelle son père avait tout sacrifié. Ce fut à cet instant, la bouche remplie de sang, qu'il prit conscience de son erreur. Il s'était tellement habitué à tous les guignols qui hantaient les studios d'enregistrement d'Atlanta et qui se faisaient passer pour des caïds en racontant dans leurs albums des histoires d'une vie qu'il s'était contenté d'observer depuis le banc de touche, albums téléchargés plusieurs millions de fois par des guignols de la même trempe qui voulaient se convaincre que cette vie-là était aussi la leur, qu'il en avait oublié que les véritables gangsters existaient. Des hommes dont la fiche de poste incluait le meurtre, et qui tuaient sans sourciller. Comment Dante les avait-il appelés ? Des monstres. Ces types étaient des monstres qui s'apprêtaient à les dévorer vivants. « T'as vraiment cru que tu pouvais essayer de me la mettre à l'envers sans qu'il y ait de conséquences pour ta jolie petite gueule ?» gronda Torrent. « T'es un peu comme un vitrail d'église, en fait. » Il y a des couleurs, ça brille, mais ça sert pas franchement à grand-chose, à part être cassé en cas d'incendie. À partir de maintenant, je considère que la dette de ton frère, c'est ta dette. Du coup, je peux me débarrasser de lui et de son pote, et quand même récupérer mon pognon, parce qu'ils m'ont manqué de respect, et ça, je peux pas laisser passer. Tu comprends, non? T'es un homme d'affaires, après tout. Il se leva et s'essuya les mains sur son jean. « Splody, bute-moi ce bouffon » ordonna-t-il en désignant Dante. « Quant à toi, t'as jusqu'à vendredi pour me rapporter le reste de mon fric. Et ensuite, je veux 50 000 tous les premiers du mois. Si t'oublies, on revient faire un tour ici. Sauf que cette fois, c'est avec ta sœur qu'on aura une petite discussion. Et si t'oublies encore, on te chope et on t'amène à la ferme. Tu feras connaissance avec mes chiens. » « Mais j'ai confiance en toi. T'as de la jugeote. Tu vas payer. » En voyant Splody sortir un pistolet de sa ceinture pour en appliquer le canon contre la tête de Dante, Roman se força à se remettre à genoux. Il cracha ce qui lui sembla l'équivalent de plusieurs litres de sang, de salive et de morceaux de dents, et cria «
Attendez! Je peux vous trouver 100 000 $ en plus tout de suite. Mais ça change rien à ma proposition. Je suis doué avec l'argent, très doué. Je peux tripler la somme que Dante et Getty vous doivent. J'ai des contacts. J'ai des tuyaux sur les opportunités d'investissement. Par exemple, je peux savoir quand les entreprises ouvrent leur capital. Je vais me servir de cet argent et faire de la magie avec. Je bosse pour vous pendant un mois. Je triple la somme qu'il vous doit et...
Roman s'interrompit un instant, le temps de reprendre son souffle. Sa tête semblait sur le point d'éclater. Il avait conscience de passer un pacte avec le diable, mais il n'avait plus qu'une seule carte dans la manche et il devait la jouer. Sinon, c'était la mort assurée, et l'aller simple pour l'enfer.
« Et vous pouvez vous servir du crématorium pour faire disparaître vos problèmes », conclut-il.
Torrent leva l'index et Splody écarta le canon de son arme de la tête de Dante. Torrent fit alors signe à Roman de continuer.
« Nos locaux sont à votre disposition »,
reprit celui-ci d'une voix étranglée.
« Tous vos soucis, on les réduit en cendres. Pas d'ADN, pas d'empreinte digitale. Même les balles fondent. Le feu détruit tout. Et je sais que vous avez des gens à faire disparaître. On construit pas un empire comme le vôtre sans se créer d'ennemis.
Tu affirmes pouvoir multiplier par 3 la somme que nous doit ton frère ? Demanda Torrent en caressant son bouc. Et on peut se servir de votre four quand on veut.
Je le jure sur la vie de ma mère. En un mois.
Torrent se tourna vers Tranquil, qui haussa les épaules.
D'accord, finit-il par accepter. Un mois, 3 fois la somme.
Tu peux compter sur moi,
dit Roman, sans baisser les yeux.
Bon, pourquoi pas. Mais Dante mérite quand même une leçon pour m'avoir manqué de respect. Chopez sa main, les gars.
Splody et Yellow Boy attrapèrent Dante par les épaules et le forcèrent à s'agenouiller. D-Train lui écarta le bras gauche pendant que Torrent s'approchait du panneau porte-outil près de la cellule de refroidissement pour se saisir d'une paire de cisailles dont leur père se servait pour tailler les buis devant l'entrée du crématorium.
« Qu'est-ce que vous faites ?»
s'affola Roman.
« Rom, aide-moi !»
cria Dante. Roman voulut s'interposer, mais le canon du pistolet de Tranquil se colla à sa nuque et il resta à genoux, tel un pénitent priant un dieu inattentif. Car il n'y aurait pas d'intervention divine. La terreur qu'il percevait dans les hurlements de son petit frère lui faisait beaucoup plus mal que sa bouche démolie. Il se pencha et vomit en regardant Torrent couper l'auriculaire de Dante avec les cisailles, avant de l'écraser sous son talon.